Alors Pierre, on revient avant le dessert dans ce plat salé, mais on reste dans la thématique du jour, à savoir Noël, le réveillon.
Absolument Caroline, n'écoutant que mon penchant pour l'actualité la plus chaude et ma sensibilité au bien-être animal, je me suis d'abord intéressé au meurtre prémédité de près de 3 millions de sympathiques gallinacés qui vont tous finir définitivement leur existence demain soir vers minuit sans pour autant avoir manifesté le moindre attachement à la chrétienté. Mais pourquoi donc la dinde fait-elle ainsi massivement les frais de nos agapes de Noël, elle qui n'avait rien demandé du temps où elle vivait peinarde dans les pampas du Mexique? Eh oui, parce que ceux qui croiraient encore à une tradition bien ancrée de l'identité culinaire française vont en être un peu pour leurs frais. Car figurez-vous que la dinde aurait très bien pu s'appeler la d'Amérique, si le GPS de Christophe Colomb ne s'était pas emmêlé les sextants. Sa bande d'aventuriers, se croyant en Inde, ramena en effet d'Amérique du Sud en 1548 un coq d'Inde, lequel devint un poulet d'Inde, qui subit alors une double transformation en accostant en Espagne, en changeant de sexe et en comprimant son appellation en dinde tout court. La première fois qu'une dinde est apparue sur une table en France serait, selon plusieurs historiens, plus de 20 ans plus tard, à l'occasion des noces du roi Charles IX avec Élisabeth d'Autriche, qui par ailleurs était loin d'en être une. Mais il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que la dinde, animal encore rare et donc exotique, soit réservée à la célébration de fêtes importantes. Plus tard, on comprit surtout qu'elle présentait aussi l'avantage d'être plus grosse que le poulet et moins chère que l'oie. Bref, un animal prêt pour le marketing, facilement fabricable en mode intensif pour satisfaire les consommateurs des Trente Glorieuses en manque de signes extérieurs de richesse.
Sauf Pierre qu'aujourd'hui, la dinde est bien sérieusement concurrencée par le chapeau, non ?
Eh bien effectivement, Caroline, depuis quelques années, voilà que les assassinats massifs de volailles de Noël se portent sur cet animal d'origine casse-couille, un foutu capable avec sa voix de fossé de réveiller la moindre basse-cour et qui a su dès l'origine compenser son handicap en développant une masse musculaire dont la dinde est fort dépourvue. Non content de se la ramener côté pectoraux, il se la joue aussi côté ancrage historique puisqu'on trouve trace du chapon dans la Rome antique. Mais à vrai dire, il y a des différences beaucoup plus importantes que le goût, essentiellement dues au fait que l'on ne produit du chapon que pour Noël, donc peu. La réglementation de sa commercialisation est par ailleurs beaucoup plus encadrée. Le chapon doit en effet être bagué et porter un sceau d'identification avec la mention « chapon ». Vous devez également vérifier qu'il a les pattes bleues, la peau très lisse et qu'il a été nourri avec au moins 75% de céréales. Et contrairement à la dinde, le chapon doit grossir lentement, tranquillement, en se faisant les muscles, en gambadant, loisir inconnu de la dinde qui pour plus de 95% du cheptel est élevé en batterie. Le danger, évidemment, Caroline, c'est que pour toutes ces raisons, la consommation de chapon augmente encore et encore et qu'il soit à terme, lui aussi, le dindon de la farce.
Merci Pierre Hivernat.